Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le complot meurtrier contre Jésus. Nous arrivons à l'étude numéro 13 et le titre sera « Les sept dernières paroles » de Jésus-Christ. Les sept dernières paroles de Jésus-Christ. En raison des douleurs que lui inflige la crucifixion, Jésus-Christ parle avec beaucoup de difficultés au cours des dernières heures de sa vie. L'Écriture sainte ne rapporte que sept brève parole du Seigneur quand il se trouve en croix. Mais chacune de ces paroles est riche en signification et révèle que Jésus-Christ demeure souverainement maître de tout, même en mourant. La première prière est une demande de miséricorde en faveur de ses tortionnaires. Saint Luc précise que peu après l'érection de la croix à Golgotha, tandis que les soldats se partagent encore ses vêtements en les tirant au sort, Jésus demande effectivement à Dieu de leur pardonner. Il dit, lorsque ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Saint Luc chapitre 23, versets 33 et 34. Le Seigneur prononce probablement ces paroles au moment même où on le cloue à la croix, ou aussitôt, que la croix est mise debout. On remarquera un fait intéressant. Dès que le sang du grand sacrifice se met à couler, le grand souverain sacrificateur Jésus-Christ se met à intercéder. Tandis qu'on se moque de lui et que les railleries sont à leur, on peut dire à leur paroxysme, Jésus réagit précisément à l'opposé, carrément à l'opposé de la plupart des hommes. Plutôt que de proférer des menaces, des ripostes et des injures à l'endroit de ses ennemis, Jésus prie Dieu son Père en leur faveur. Comme nous l'avons vu, par tant de détails entourant la mort de Jésus, cette intercession sacerdotale en faveur de ses propres assassins accomplit une prophétie de l'Ancien Testament parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe chapitre 53 verset 12. Or ce geste d'intercession renferme tout le sens de la croix. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils bien-aimé dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Saint Jean chapitre 3 verset 17. Il est donc certain qu'à sa place, tout homme mortel n'aurait que malédiction et injure à proférer contre ses assassins. On pourrait même croire que le Dieu incarné souhaiterait frapper de tels hommes d'un effroyable jugement. Mais voilà, Jésus se trouve en mission de miséricorde. il est en train de mourir pour acheter le pardon de Dieu en faveur des pécheurs. Et ici, au pire de l'agonie, il a le cœur rempli de compassion. La phrase, quand il dit « car ils ne savent ce qu'ils font », ou si vous voulez, ils ne savent pas ce qu'ils font, je le dis à la Suisse, on est un peu plus lent, n'est-ce pas? Cela ne suggère pas qu'il ignore Jésus, être en train de pécher. L'ignorance, elle n'aboutit personne, elle n'absout jamais personne de aucun péché, jamais. Voyez-vous, ces personnes agissent. Vraiment, ils agissent par méchanceté, il faut quand même le dire. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Pilate a lui-même témoigné de l'innocence de Jésus, rappelez-vous. Le Sanhédrin est parfaitement conscient de l'impossibilité de porter des accusations légitimes contre Jésus-Christ. Même si les soldats et la foule peuvent aisément discerner la grande injustice qui lui est faite, eh bien, tous se mettent joyeusement de la partie. Rappelons-nous qu'un bon nombre d'entre les spectateurs qui sont venus à Golgatha pour se moquer de Jésus l'ont pourtant entendu enseigner et vu même accomplir des miracles. Ils ne peuvent réellement croire en leur fort intérieur qu'ils méritent de mourir de cette façon-là. Leur ignorance en soi est inexcusable et cela ne les absout certainement pas de leur conduite répréhensible. Ce qu'ils ignorent, voyez-vous, c'est l'énormité de leur crime. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en fait en train de crucifier Dieu le Fils. Ils sont spirituellement insensibles car ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Ainsi, ils ne se rendent pas compte que celui-là même qu'ils mettent à mort est nul autre que la lumière du monde. S'il l'avait connu, la sagesse, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Comment Dieu exauce-t-il la prière de Jésus? De nombreuses manières, oh oui, la première réponse prend la forme de la conversion d'un des brigands qui est crucifié aux côtés de Jésus. Saint Luc chapitre 23, versets 40 à 43. Ensuite, Jésus obtient une deuxième réponse, et cela en la conversion d'un centenier, soit un des soldats qui l'ont crucifié, verset 47 de Saint Luc chapitre 23. Il recevra aussi d'autres réponses à cette prière au cours des semaines et des mois qui suivront sa crucifixion, en particulier lors de la Pentecôte. Lorsque à Jérusalem, d'innombrables personnes se convertiront à Jésus-Christ. Plusieurs d'entre elles feront indubitablement partie de celles qui ont revendiqué la mort de Jésus et qui l'ont injurié en se tenant au pied de sa croix. Dans Actes chapitre 6, verset 7, là, on nous indique, par exemple, qu'un grand nombre de sacrificateurs professeront Jésus comme étant leur Seigneur. Il importe donc que nous comprenions que la demande de pardon qu'adresse Jésus en faveur de ses assassins ne garantit pas le pardon immédiat et inconditionnel de tous ceux qui auront participé à sa crucifixion. En fait, il prie ici en faveur de tous ceux qui se repentiront et qui le reconnaîtront comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Sa prière, c'est que lorsqu'ils auront réalisé l'énormité de leur mauvaise conduite et qu'ils auront imploré le Père Céleste de leur pardonner leurs péchés, Dieu ne leur en veuille pas, il leur en voudra pas d'avoir assassiné son Fils bien-aimé. Dieu n'accorde jamais son pardon à ceux qui persistent dans l'incrédulité et le péché. La prière de Jésus ne change rien au fait que Dieu ne saurait absoudre automatiquement quiconque sans tête à haïr son Fils. Par contre, tous ceux qui se repentent et qui demandent pardon, tels que le centenier du brigand crucifié, des sacrificateurs et des gens, on peut dire, des gens de la foule qui l'ont fait, eh bien tout cela obtiendront une grâce surabondante en réponse à la requête de Jésus en leur faveur. La prière de Jésus constitue un gage de miséricorde pour tous ceux qui l'écoutent. Il prie à haute voix dans leur intérêt, Saint Jean chapitre 11, verset 42. En fait, leur péché est si inconcevablement odieux que si les témoins ne l'entendaient d'eux-mêmes prier pour le pardon de ces assassins, eh bien la plupart risqueraient de présumer qu'ils ont commis un délit absolument impardonnable. Voyez-vous le pardon pour lequel Jésus-Christ prie ici? Dieu l'offre gratuitement. Notez Apocalypse, chapitre 22, verset 17, et avec empressement à tous les pécheurs repentants. Le Père du Fils prodigue personnifie d'ailleurs ce Dieu qui pardonna avec empressement. Jésus intercède pour que tout pécheur soit réconcilié avec Dieu, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, et Ézéchiel, chapitre 18, verset 3 à 32, et notez encore Actes, chapitre 17, verset 30. Sur ceux qui se réconcilient avec lui, Dieu promet, il promet de déverser abondamment son pardon, alléluia, une offre qu'il étend même à ceux qui ont pris part à l'assassinat de Jésus. La deuxième parole que Jésus prononce sur la croix marque le premier exaucement glorieux de la prière qu'il a faite pour le pardon de ses assassins. Et cela démontre toute la générosité avec laquelle ce pardon est accordé, même au plus improbable des bénéficiaires. Au fil des heures d'agonie qui s'égrènent sur la croix, il s'opère un changement de cœur chez un des deux brigands qui se moquait pourtant de Jésus il y a encore peu de temps. On ne mentionne pas la raison de ce changement. Il a entendu la demande de miséricorde de Jésus et il en a été touché. Il a réalisé qu'elle s'appliquait aussi à lui. Mais qu'importe ce qui le pousse maintenant à retourner sa veste, il s'agit tout de même d'un miracle extraordinaire. Alléluia. Notons que l'homme en question est sans contredit une des personnes les plus profondément dégénérés qui se trouvent là, pendus à la croix. Lui et son complice, ce sont des criminels professionnels, n'oublions pas. Ce sont des hommes qui ont voué leur vie au vol, au méfait, au viol et à l'assassinat, au meurtre. Du reste, le fait qu'ils emploient leur toute dernière force pour se moquer de Jésus, cela trahit le caractère viscéral de leur terrible méchanceté. Donc, de toute évidence, ils savent très bien que Jésus est innocent, puisque le brigand pénitent, écoutez bien, ce brigand pénitent finit par réprimander son acolyte en lui disant « Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. » Saint Luc chapitre 23 verset 41. Reste qu'avant qu'un d'eux ne se repente, il, au pluriel, le couvrait tous les deux de ridicule et de mépris il y a encore peu de temps. Mais voilà qu'ici, un des brigands commence à se taire, commence à réfléchir. Et sa prise de conscience, elle l'amène à se repentir. Gloire à Dieu! Ce qui changera complètement son cœur. Tandis qu'il examine Jésus en train de supporter toutes sortes de mauvais traitements avec une telle patience, sans jamais injurier ses tortionnaires, le brigand commence à voir que ce Jésus est bel et bien qui il dit être. Son changement immédiat de conduite fait d'ailleurs la preuve, c'est la preuve de sa repentance, car ses insultes se changent tout à coup en louanges pour Jésus-Christ. D'abord, il reprend son partenaire de crime et il lui dit « Toi, ne crains-tu pas Dieu ? Toi, qui subis la même condamnation, car pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que on mérite, ont mérité nos crimes. Mais par contre, celui-ci, il n'a absolument rien fait de mal. » Saint Luc, chapitre 23, versets 40 et 41. Ce faisant, il confesse sa propre culpabilité et il reconnaît qu'il mérite la peine qu'il subit. De même qu'il affirme l'innocence de Jésus-Christ. Puis, ensuite, il se tourne vers Jésus et il le confesse comme étant son Seigneur et son Sauveur. Il dit « Oh, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Verset 42. À cette confession du brigand, reconnaissant Jésus comme étant le Seigneur et Roi, succède immédiatement la deuxième des sept dernières paroles de Jésus. Jésus lui répond, il répond au brigand, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, verset 43. Je prends parfois des versets dans mes bibles de langue allemande, puisque je suis évidemment de langue allemande. Mais rassurez-vous, c'est à peu près tout à fait pareil dans vos bibles françaises. Donc, chers amis, aucun pécheur n'a jamais reçu confirmation plus explicite de son salut. Ce saint des plus invraisemblables. Il se voit ainsi être accueilli instantanément et inconditionnellement dans le royaume du Sauveur. L'incident constitue donc une des illustrations bibliques parmi les plus extraordinaires de la vérité de la justification par la foi. Cet homme n'a rien fait, absolument rien, pour mériter le salut. Bien au contraire, il n'est certes pas en position d'agir de manière méritoire. Étant lui-même à l'agonie, il n'a donc aucun espoir de gagner la faveur de Jésus-Christ. Mais réalisant qu'il se trouve maintenant dans une situation tout à fait désespérée, ce brigand sollicite un simple petit gage de miséricorde auprès de Jésus. Il demande « Please », c'est moi qui ajoute, « s'il te plaît, souviens-toi de moi. Au seuil de la mort, épuisé et désespéré, il demande une dernière petite faveur qu'il sait ne jamais mériter. Sa requête, elle rappelle la complainte du publicain qui n'osait même pas lever les yeux au ciel et qui se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. » Saint Luc chapitre 18 verset 13. Pour qu'un homme reçoive la vie éternelle et soit accueilli dans le royaume de Dieu, cela doit se faire par le mérite d'un autre. Et pourtant, dans les deux cas, Jésus accorde sur le champ la pleine assurance d'un pardon total et de la vie éternelle. Oh là là, ce sont là des preuves classiques de ce que la justification s'obtient uniquement par le seul moyen de la foi. Jésus fait donc ici au brigand qui est à l'agonie, une promesse incroyable. C'est celle de lui pardonner intégralement et d'effacer toutes les mauvaises actions qu'il a pu commettre. Il n'est donc pas tenu d'expier ses propres péchés, ni de faire pénitence, ni d'accomplir un quelconque rituel. Il ne se fait pas condamner au purgatoire non plus, bien que si ce purgatoire existait, eh bien, si les doctrines dont s'accompagne invariablement la croyance dans le purgatoire étaient vraiment véridiques, eh bien cet homme devrait, vous le comprenez, indubitablement, il devrait y purger une très longue peine. Mais voilà, au lieu de cela, il reçoit un pardon total. Un pardon gratuit et immédiat. Oui, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est tout ce que Jésus lui dit et c'est tout ce que le brigand a besoin d'entendre. Il ressent encore d'horribles douleurs physiques et comment ? Mais son âme, son esprit, est désormais purgé de la misère. Pour la première fois de sa vie, il est soulagé du fardeau de ses péchés. Le Sauveur à ses côtés, il le porte à l'instant même à sa place. Le brigand est donc maintenant, il est revêtu de la justice parfaite de Jésus-Christ. Bientôt, oh oui, bientôt, ils seront ensemble au paradis, car Jésus-Christ lui en donne sa parole. Et j'ajoute sa parole d'honneur. Pardonnez-moi. Voyez-vous, les ennemis de Jésus ne sont pas les seuls spectateurs qui sont présents à la croix. Tandis que la nouvelle de l'arrestation et de la condamnation à mort de Jésus par le Sanhédrin circule dans tout Jérusalem, Jérusalem, soi-disant la capitale des Arabes, ça donne à réfléchir. Je suis un peu étonné que le système chrétien ne dit rien à cela. Hein ? On accuse Donald Trump de tous les maux. Et aucune voix chrétienne ne le défend. Je ne dis pas qu'on doit le défendre, parce qu'il n'est pas... Hein, bon, mais quand même, ça donne à réfléchir. Voici donc comment Saint Jean décrit cette scène. Il y a là, près de la croix de Jésus, il y a là que se trouve sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Saint Jean, chapitre 19, verset 25. Certains interprètent croix, eh bien, oui, on est libre d'avoir d'autres pensées, d'autres idées. Alors certains interprètent croix que Saint Jean ne mentionne ici que trois femmes et que la sœur de sa mère et Marie, femme de Clopas, ne forment qu'une seule personne. Mais cela signifierait que ces deux sœurs s'appelleraient Marie, ce qui semble très improbable. On dirait plutôt que Saint Jean précise qu'il y a là trois femmes nommées Marie, la mère de Jésus, Madame Clopas et Marie de Magdala, ainsi qu'une quatrième femme, c'est-à-dire la sœur de Marie, dont il ne cite pas le nom. Mais il s'agit là de Salomé, la mère de Jean et de Jacques. Jean indique également dans le verset 26 qu'il est lui-même présent, ce qui signifie, comme il le fait toujours dans son évangile, sous l'appellation « le disciple que Jésus aimait », Saint Jean, chapitre 21, versets 20 à 24. Donc, en regardant mourir Jésus, ses proches doivent affreusement souffrir, mais jamais autant que ne doit souffrir Marie, sa mère terrestre. Rappelons-nous les paroles que le prophète Siméon lui a adressées bien des années plus tôt, à la naissance de Jésus. Il a dit « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Saint Luc, chapitre 2, donc de Saint Luc, versets 34 à 35. Or, la fameuse épée dont lui a parlé Siméon lui perce maintenant le cœur, en effet, tandis que la maman regarde mourir son fils aîné. Elle l'a élevé depuis l'enfance, connaissant sa perfection absolue beaucoup mieux que quiconque, elle se tient là, à regarder son fils se faire mépriser, à se faire moquer de lui et maltraiter cruellement par la foule. Le corps est massillé et sanglant du malheureux, agonise là sur la croix, et elle ne peut rien y faire. On ne saurait imaginer la tristesse et la douleur qu'elle doit ressentir. Et pourtant, plutôt que de s'effondrer et de s'abandonner à l'hystérie, ça pourrait arriver, ou de s'enfuir en courant, horrifié, ou même de perdre connaissance. Elle se tient là. Quel exemple de courage! Quel courage! On la voyait ainsi affligée. Jésus lui destine maintenant la troisième parole qu'il prononce sur la croix, une parole empreinte de tendre amour d'un fils pour sa mère. Oui, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment-là, le disciple, il l'a pris chez lui. Saint Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. En la confiant donc ainsi à Jean le disciple, Jésus assure amoureusement à sa mère un avenir sûr, car le disciple Jean prendra soin d'elle dans ses vieux jours. Il s'agit là d'un beau geste qui en dit long sur la nature personnelle de l'amour de Jésus. Bien qu'il soit en train de mourir de la pire des morts, Jésus, le roi de l'amour, il fait abstraction de lui-même pour répondre aux besoins terrestres de ceux qui l'entourent. Ainsi bien qu'il se trouve au cœur même de l'événement le plus important de l'histoire de la rédemption, il n'oublie pas de voir aux besoins d'une femme qui est sa mère. Marie n'est toutefois pas du tout une co-rédemptrice sans aucun péché. Elle dépend tout aussi bien de la grâce divine que le plus vil des pécheurs, si bien qu'une fois que Jésus-Christ a atteint l'âge adulte, sa relation avec lui est devenue la même que celle de tout croyant obéissant au Seigneur. Elle est devenue un disciple. Il est lui le maître. Jésus-Christ a lui-même réprimandé ceux qui souhaitent vénérer Marie. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix au milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la sainte parole de Dieu et qui la gardent. » Saint Luc, chapitre 11, versets 27 et 28. Voyez-vous, si Marie est bénie, c'est parce qu'elle obéit à la sainte parole de Dieu, comme c'est le cas de tous les croyants. Son statut de mère du Christ ne s'accompagne d'aucun titre spécial, tel que co-médiatrice et reine des cieux, ou toute autre forme de déification qu'on a pu associer au concept populaire de Marie uniquement par superstition médiévale. Pour dire les choses très clairement, c'est pure idolâtrie que d'accorder à Marie des honneurs, des titres ou des attributs qui font d'elle être l'égale de Dieu dans l'œuvre rédemptrice de son Fils, ou qui l'amènerait à être vénérée. Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ a aimé et il a honoré sa mère en tant que mère. Il a obéi au cinquième commandement aussi parfaitement qu'il a obéi à tous les autres. Or, quand il s'agit d'honorer ses parents, on doit notamment prendre soin d'eux dans leur vieillesse. C'est une responsabilité que Jésus-Christ n'a pas négligée. Donc le fait ici que Jésus ne confie pas sa mère à ses propres demi-frères, cela peut être significatif. Marie est manifestement veuve à ce stade. On ne dit plus rien de Joseph après les récits des évangiles qui rapportent la naissance et l'enfance de Jésus. Il est donc mort avant que Jésus n'entame son ministère public. Mais l'Écriture sainte laisse entendre que après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont entretenu des relations conjugales tout à fait normales à tout égard. Saint Matthieu, chapitre 1, verset 25. Donc, contrairement à ce que affirme l'Église catholique romaine, l'Écriture sainte ne nous permet pas, elle ne nous permet pas de croire que Marie soit demeurée vierge à perpétuité. En fait, les évangiles déclarent très clairement que Jésus avait des frères. Notez Saint Marc, chapitre 3, verset 31 à 35. Notez Saint Luc, chapitre 8, verset 19 à 21. Et notez encore Saint Jean, chapitre 2, verset 12. Saint Matthieu en précise même leur nom. Jacques, Joseph, Simon et Jude. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 55. Ils sont donc, en fait, les demi-frères de Jésus, les enfants naturels de Marie et de Joseph. Pourquoi Jésus ne choisit-il pas ici de confier sa mère à un de ses propres frères? Tout simplement parce que, selon Saint Jean chapitre 7 verset 5, ses frères n'ont plus, eux non plus, ne croient pas pour le moment en lui. Ils ne deviendront croyants que lorsque Jésus-Christ sera ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi il est écrit qu'ils seront du nombre de ceux qui se seront réunis pour prier dans la chambre haute lorsque le Saint-Esprit descendra le jour de la Pentecôte. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Mais ici, au jour de la mort de Jésus, ils ne sont manifestement pas encore convertis pour le moment. Jésus dit en Saint Jean chapitre 10 versets 17 et 18, le Père m'aime, il m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. personne ne ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai donc le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Saint Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. Voilà donc tout le sens de la croix. Ceux qui tentent d'expliquer l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ d'une quelconque autre façon finissent inévitablement par en annuler totalement la vérité. Jésus-Christ ne nous a pas simplement donné ainsi un exemple à suivre. Il n'était pas un simple martyr que Dieu son Père a sacrifié à la méchanceté des hommes qui l'ont crucifié. Il ne faisait pas simplement une démonstration en public pour que les gens réalisent tout l'horreur du péché. Voici ce qui se passe sur la croix. Dieu est en train de punir son Fils comme s'il avait lui-même commis chacun des mauvaises actions que chaque pécheur, moi y compris, repentant, a pu commettre. Et il l'a fait pour pouvoir pardonner à ses rachetés et de les traiter comme s'ils avaient vécu la même vie de justice parfaite que Jésus-Christ lui-même. Cela, l'Écriture l'enseigne explicitement, comme le démontre la citation qui suit. Celui qui n'a point connu le péché, est-il dit, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Cependant, il est encore dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, pour mes péchés. Il était brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Quoique il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel Dieu de le briser par la souffrance afin de le livrer, de livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe, chapitre 53, versets 9 et 10. Donc le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Daniel, chapitre 9, verset 26. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre Fils bien-aimé, dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, verset 3. Jésus-Christ nous a donc rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Galates chapitre 3, verset 13. Oui, Jésus-Christ a donc expié les péchés en versant son sang. Romains 3, verset 25 et Hébreux chapitre 2, verset 17. Donc, chers amis, sur la croix, c'est la propre colère de Dieu contre le péché, la propre droiture de Dieu et le propre sens de la justice de Dieu que Jésus a rassasié. En versant son sang, il s'est offert à Dieu en guise de victoire ultime expiatoire pour les péchés, pour nos péchés. Par sa mort, il n'a pas satisfait publiquement à la justice de Dieu, ni versé à Satan la rançon des pécheurs. Non, non, non. Voyez-vous, la rançon pour les élus, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 6, Jésus-Christ, il l'a payé lui-même à Dieu son Père. Jésus-Christ est donc mort à notre place. Et il a essuyé précisément le courroux, c'est-à-dire la colère divine, que nous méritions, que je méritais, à cause de nos péchés. Bien que le fait pour un homme mortel de passer toute l'éternité dans les tourments de l'enfer constitue évidemment un châtiment très sévère, il ne servirait pas même le moindrement à apaiser la colère de divine que Dieu a déversée sur Jésus-Christ à la croix. Voilà donc combien Jésus a souffert sur la croix. Les douleurs physiques associées à la crucifixion, aussi terribles qu'ils ont été, n'étaient rien en comparaison de la colère que le Père a déversée sur lui. C'est en anticipant cela, justement, qu'il a transpiré du sang dans le jardin. Et c'est pour cela qu'il avait considéré la croix avec une telle horreur. Comment imaginer l'ampleur du prix qu'il a dû payer? Il suffit de comprendre que toutes nos pires craintes concernant les horreurs de l'enfer, et plus encore, se sont concrétisées en lui, en Jésus, lorsqu'il a effacé la dette que nous avions encourue par nos fautes, par nos propres fautes. Or, aura cette terrible heure. C'est comme si Dieu le Père l'avait abandonné. Bien que le Père n'ait certainement jamais cessé de l'aimer comme son propre fils qu'il est, eh bien Dieu s'en est néanmoins détourné un petit moment et là, tout a laissé, il a délaissé un moment comme étant notre substitut, avez-vous bien compris? Donc le fait que Jésus-Christ, souffrant d'épuisement, de la perte de sang, d'asphyxie et de tous les maux terribles, de toutes les autres afflictions qui sont associées à la croix, ce doit quand même être écrit qu'il a écrit, il a crié. C'est ce qui est écrit. Jésus-Christ a crié d'une voix forte. Et cela prouve quoi? Cela prouve qu'il ne récitait pas simplement un psaume. Oh non! Mais c'était un cri de l'âme, de son esprit. C'était cela même que le psaume avait prédit. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'Écriture sainte soit accomplie, il a dit, j'ai soif. Saint Jean chapitre 19, verset 28. Voilà donc la cinquième parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix. Au seuil de la mort, Jésus demande une dernière fois, qu'on le soulage physiquement. Il a recraché, rappelez-vous, plutôt, la mixture de vinaigre, il l'a recraché, et ce fameux calmant qu'on a voulu lui offrir. Et maintenant, qu'il souhaite apaiser son horrible soif, qui est due à la déshydratation, à la déshydratation, excusez-moi, eh bien, maintenant, on lui sert une éponge saturée de vinaigre pur. Car il y avait là un vase qui était plein de vinaigre, et les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche, selon Saint Jean chapitre 19, verset 29. Sa soif, elle reflète l'entière humanité de Jésus. Bien qu'il soit en quelque sorte Dieu incarné, ce qui est une réalité, il ressent malgré tout en son corps terrestre, car son corps pour le moment est encore terrestre, il ressent toutes les limitations normales que impose la chair humaine. Or, quelle autre limitation saurait mieux nous en convaincre que cette soif terrible qui le tenaille maintenant d'avoir passé plusieurs heures sur la croix? Rares sont ceux qui auront physiquement souffert autant que lui. Mais ici encore, pour que l'Écriture sainte s'accomplisse, tout ce qu'on lui sert pour étancher sa soif ardente, c'est du vinaigre. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre, est-il écrit dans le psaume 69, verset 22. Oui, voyez-vous, Jésus poursuit donc ainsi son récit de la crucifixion. En effet, quand Jésus a pris le vinaigre, il a dit « Maintenant tout est accompli » Saint Jean chapitre 19, verset 30. Ce mot, selon Saint Luc 23, verset 46, Jésus-Christ lance donc ici, et cela d'une voix forte, il s'agit d'un cri triomphal qui est riche en signification. Car par cette parole, Jésus n'indique pas seulement que sa vie terrestre est enfin terminée, mais encore qu'il a maintenant achevé l'œuvre que son Père lui avait confiée. Pendu à la croix, ayant l'apparence d'une pauvre victime décharnée, c'est bien le mot, il célèbre néanmoins la plus grande victoire de l'histoire de l'univers. Car l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, elle est maintenant achevée. La rédemption des pécheurs est maintenant accomplie. Et c'est lui qui remporte maintenant la victoire finale. Alléluia. Gloire à Dieu le Père, à son Fils et au Saint-Esprit. Jésus-Christ a donc accompli pour les pécheurs tout ce que la loi de Dieu exigeait d'eux. L'expiation a eu lieu dans son intégralité. Tout ce que la loi cérémoniale a annoncé s'est maintenant désormais réalisé. La justice de Dieu a été satisfaite. La rançon a été versée au complet pour les pécheurs. Le salaire du péché a été payé en entier. Oui, tout ce qui reste à faire pour Jésus-Christ, c'est maintenant de mourir afin de pouvoir ressusciter. Oui, ressusciter. Voilà donc pourquoi on ne peut rien ajouter à l'œuvre rédemptrice de Jésus. Pour faire pleinement effet, son œuvre ne requiert aucun rite religieux, ni baptême, ni pénitence, ni aucune autre action religieuse. Aucune œuvre humaine complémentaire ne saurait accroître ou améliorer l'expiation qu'il a accomplie sur la croix. Le pécheur n'est tenu d'apporter aucune contribution pour s'approprier le pardon de Dieu ou sa pleine acceptation. Le seul, absolument le seul mérite de Jésus-Christ suffit à lui tout seul à nous sauver pleinement. Son œuvre expiatoire est donc accomplie en entier, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, juste après s'être écrié que tout est maintenant accompli, Jésus-Christ prononce maintenant sa dernière parole sur la croix, une prière qui exprime la soumission inégalée à laquelle il est entièrement dévoué depuis le tout début. Voici comment saint Luc nous décrit la scène. Jésus s'écria d'une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Saint Luc chapitre 23, verset 46. Jésus-Christ est donc mort comme personne d'autre n'est mort et ne mourra jamais. Dans un sens, ce sont des impies qui l'ont assassiné. Actes chapitre 2, verset 23. Mais dans un autre, c'est son Père qui l'a envoyé à la croix. Jésus a été brisé par la souffrance, selon Ésaïe 53, verset 10. Et dans un autre encore, personne, est-il dit, n'a pris la vie de Jésus-Christ. Personne. Pourquoi ? Car c'est lui-même, c'est Jésus lui-même qui l'a donné sa vie. Il l'a donné de son propre gré pour ceux, pour tous ceux qu'il aime, pour vous qui écoutez maintenant. Saint Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Nous allons terminer. Ici donc, chers amis, tandis que Jésus rend son dernier souffle, Jésus-Christ ne nourrit aucune animosité envers ses assassins. Il ne panique pas devant la mort. En s'abandonnant finalement à la mort, il agit délibérément et souverainement selon son bon vouloir, démontrons ainsi jusqu'à la toute fin, comme il l'a fait à tous les stades du drame de la crucifixion, qu'il est parfaitement maître de tout ce qui se passe. Saint Jean nous rapporte ainsi les faits. Il est dit dans Saint Jean chapitre 19, verset 30, « Et baissant la tête, Jésus rendit l'esprit. » Il se contente de rendre l'âme dans le calme et dans la soumission. Tout s'est réalisé exactement comme il l'avait prédit. Non seulement Jésus, mais encore ses assassins. Toute la foule railleuse, moqueuse, Pilate, Hérode et le Sanhédrin, tous ont accompli jusque dans les moindres détails les desseins prédéterminés selon la préscience de Yahvé l'Éternel. Voilà avec quel calme et avec quelle majesté Jésus-Christ a démontré son entière souveraineté jusqu'à la fin, aux yeux de ceux qui l'aiment, et même de beaucoup d'entre ceux qui ne l'aiment pas tellement, eh bien tout cela semble être la pire des tragédies. Mais c'est en réalité la plus grande victoire qui a été jamais remportée dans toute l'histoire de la rédemption. Ce fait, Jésus-Christ le démontrera glorieusement lorsqu'il sortira victorieux du tombeau quelques jours plus tard. Amen. Et chers amis, terminons tout simplement par la prière. Jésus, Fils du Dieu vivant, Jésus, splendeur du Père, Jésus, clarté de l'éternelle lumière, aie pitié de nous. Jésus, roi de gloire, Jésus, soleil de justice, Jésus-Christ, tu es le Père du siècle à venir. Jésus, tu es doux et humble de cœur. Jésus, tu es notre refuge. Jésus, tu es le trésor des fidèles. Jésus, tu es la vraie lumière. Jésus, tu es la sagesse éternelle. Jésus, tu es la bonté infinie. Jésus, tu es notre voie et notre vie. Oui, Jésus, tu es la joie des anges. Par le mystère de la Sainte Incarnation, délivre-nous, Seigneur. Par ta vie toute divine, par ta tendresse et ton amour, délivre-nous, Seigneur. Par ton agonie et ta passion, par ta croix et ton sacrifice, délivre-nous, Seigneur. Par ta mort, par ta résurrection, et par ta victoire, oui, délivre-nous, Seigneur. Par ta foi, par tes joies, par ta gloire, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, exauce-nous, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et l'on vous ouvrira. Fais-nous éprouver, nous t'en prions, ton amour, ta divine, afin que nous t'aimions de tout notre cœur, en parole et en acte, et que jamais nous ne cessions de te louer. Donne-nous pour toujours, ô Seigneur, la crainte comme l'amour de ton saint nom, ô toi qui ne cesses jamais de conduire ceux que tu enveloppes de la puissance de ta tendresse. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, oui maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse avec tout mon cœur. Et je vous dis, oui, je vous aime, soyez bénis, soyez bénis. Et je voudrais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. Figurez-vous, 1954, j'étais un tout jeune homme en ce temps-là, quand j'ai enregistré cela. Bien entendu, vous comprendrez que on n'avait pas les mêmes appareils qu'aujourd'hui, et encore en plus, le son, avec le temps, il s'estompe, s'évanouit en partie, mais le Saint-Esprit vous donnera quand même quelque chose dans votre cœur, soyez-en certains. Essayons, hein? C'est Mahalia Jackson, célèbre. Ooh, to me.
God hears the Lord to me. I don't serve Him as I should. I don't deserve some heart not but God to me. I know to pray, He always do. In every time He walked through, oh God. About the blessing of the Lord, there's a joyful feeling inside of your soul. When you look up at the heavens, as David said, the heaven declares the glory of God, for God's blessing. But let us take just a moment to realize how good God is to us, and how merciful He is to us, and how He's called our golden moments to roll on. Light of the morning.